Deuxième temps de notre semaine, donc consacré à la vie et à la légende de Cléopâtre, reine d'Égypte. Plusieurs fois dans l'année, en effet, nous nous intéresserons dans la fabrique de l'histoire à quelques grands personnages de l'histoire dont la légende nous empêche parfois de voir leur action réelle. Cléopâtre, donc. Hier, nous avons reçu ici même l'historien Bernard Legras, spécialiste de l'Égypte grecque, qui nous a expliqué combien la dynastie des Ptolémées, dont Cléopâtre était issue, était une dynastie grecque gouvernant une Égypte multiculturelle. Demain, nous nous demanderons qui était la vraie, entre guillemets, Cléopâtre, débarrassée des oripeaux dont la légende l'a affublée. Jeudi, c'est de cette légende dont il sera question avec un documentaire de Perrine Kervran et d'Anne Fleury sur le mythe de Cléopâtre. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons revenir à la source de ce mythe ou de cette légende, aux sources plutôt, en nous intéressant aux historiens de Rome, qu'ils se nomment Pline l'Ancien, Lucain, Dion Cassius, Florus ou Plutarque. Et ils nous décrivent une Cléopâtre avide de richesse et de pouvoir, débauchée et même prostituée parfois, corrompant l'esprit de Rome dans un Orient dépravé. Nathalie Canoui lira en direct ces textes et avec Séverine Yattard qui a préparé avec nous cette émission, nous interrogerons trois historiens qui commenteront ces extraits. Paul Marius Martin, il est professeur émérite à l'université de Montpellier 3 et auteur d'un Antoine et Cléopâtre chez Complexe et il prépare une édition de De Viris Illustribus aux belles lettres. Martin Collat, il est professeur d'histoire et de géographie dans un collège parisien et auteur d'une biographie de Cléopâtre en 2001 chez Larousse. Il a écrit également Un monde romain chez Armand Collin et enseigné l'histoire chez CEDES qui paraîtra ce mois-ci. Et Stéphane Ratti est professeur de langue et de littérature à l'université de latine à l'université de Bourgogne et il est chargé de conférences à l'école des hautes études en sciences sociales et il a donc édité une partie de l'Histoire Auguste et il est co-directeur avec Paul Marius Martin ici même, donc présent, de Écrire l'Histoire à Rome aux éditions des Belles Lettres. Bonjour messieurs et bonjour mesdames puisque nous avons avec nous Séverine Yattard et Nathalie Canoui et nous commençons tout de suite avec vous Nathalie Canoui par quelques petits extraits justement de cette légende transportée par les historiens de Rome sur Cléopâtre.
Cette ambitieuse et avare princesse, après avoir si cruellement persécuté ceux de son propre sang qu'il n'en restait plus un seul en vie, tourna sa fureur contre les étrangers. Elle calomniait auprès d'Antoine les plus qualifiés d'entre eux et le portait à les faire mourir afin de profiter de leur dépouille.
Lucain.
L'incestueuse fille des Ptolémées, la sœur impie, s'unit aux frères. Elle était déjà unie au chef latin César, et passant de l'un à l'autre époux, elle possède Rome et achète l'Égypte.
Dion Cassius.
Elle avait donc préparé pour séduire Octave un appartement splendide et une couche somptueuse. Elle s'était parée avec une certaine négligence. Et comble du raffinement, ses habits de deuil rehaussaient son éclat.
Florus.
C'est ainsi qu'une Égyptienne demanda l'Empire romain à un général ivre pour prix de ses faveurs. Et Antoine le lui permit comme si le Romain était moins difficile à conquérir que le Parthe. Il se prépara donc à conquérir le pouvoir, et cela sans se cacher. Mais après avoir oublié sa patrie, son nom, sa toge, ses faisceaux, il s'abandonna tout entier à ce monstre.
Eutrope.
Antoine entreprit un gigantesque conflit civil contre Octave sous l'influence de son épouse Cléopâtre, reine d'Égypte. En effet, sous l'emprise d'une passion propre aux femmes, elle ambitionnait d'être reine aussi de Rome.
Bonjour Stéphane Ratti.
Bonjour.
Nous avons terminé par cet historien Eutrope dont vous pensez peut-être qu'il a été un des points de départ, sinon le point de départ de cette légende de Cléopâtre qui est parvenue jusqu'à nous avec les griefs qui sont portés par Rome et son idéologie à cette reine d'Égypte. Il y a tout de même avant cet Eutrope qui est un historien du IVe siècle, tous ceux qu'on a entendus avant, les Flavius Joseph, les Florus ou Lucain, qui eux aussi, avec Plutarque, dont on parlera un peu plus tard, et d'autres, ont transmis cette même légende, Stéphane Ratti.
Eutrope n'est certainement pas à l'origine de la légende noire de Cléopâtre, mais il en est comme la figure cristallisée. C'est-à-dire qu'au IVe siècle, nous assistons à une forme de transmission scolaire, populaire par certains aspects, qui donne une image arrêtée.
Stéréotypée.
Stéréotypée, fruit de l'idéologie augustéenne, qui est l'héritage de cette idéologie augustéenne, mais qui est à l'origine de notre vision scolaire. Le De Viris Illustribus que vous avez évoqué tout à l'heure et Eutrope sont des historiens mineurs, des abréviateurs, mais qui ont été énormément lus à leur époque.
Et enseignés.
Et lus à la Renaissance et jusqu'à l'époque moderne, enseigné. Effectivement, le De Viris Illustribus, par exemple, est un texte qui dit des méchancetés atroces sur Cléopâtre et qui est un ouvrage qui a été édité à près de 300, qui a connu près de 300 rééditions entre le 18e et le 19e siècle.
Et qui va bientôt être réédité, Paul-Marius Martin, bonjour, par vous-même, puisque vous êtes en train de mettre la dernière main à une édition justement de ce De Viris Illustribus pour les éditions des Belles-Lettres. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Ratti ?
Tout à fait. Je crois effectivement que l'origine est bien antérieure, elle remonte à l'idéologie augustéenne, elle remonte même au-delà à la vieille haine des Romains contre les rois en général et contre ce qui est pour eux l'abomination de la désolation, c'est-à-dire non seulement une monarchie, mais une monarchie tenue par une femme, circonstance aggravante.
Oui. Et donc, ça remonte dès l'origine, d'une certaine façon. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut commencer à comprendre les prémices, justement, de cette légende noire ? Est-ce que c'est immédiatement après la défaite d'Axium que ça s'est passé ?
Ça commence avant.
Des 31 ça commence avant.
Ça commence avec la rupture entre Octave et Antoine, c'est-à-dire 2 ou 3 ans auparavant, lorsque Antoine est définitivement confiné dans l'Orient et où il a répudié son épouse romaine Octavie, et du coup, il est complètement considéré comme étant sous le contrôle...
Orientalisé.
Sous le contrôle sexuel et autres de Cléopâtre. Et c'est à ce moment-là que, pour expliquer le problème politique qu'il pose, on le réduit à un problème moral.
Séverine Yatta.
Alors... Parce qu'au préalable, donc nous, on est là, a priori, pour parler plutôt des historiens de Rome. Alors, il faudrait peut-être revenir sur la définition de l'historien à cette époque, d'autant que cette image de Cléopâtre, elle a été d'abord véhiculée plutôt par des poètes. Et il semblerait, alors, je pense à Horace, Properce, donc des poètes dans le camp d'Octave, bien sûr, oui. Augustéen. Et il semblerait que ces historiens, finalement, aient suivi la trame déjà tracée par ces fameux poètes.
Oui, Paul-Marius Martin et puis Martin Collin.
À vrai dire, on ne sait trop rien parce que notre problème est que la littérature contemporaine qui écrivait les guerres civiles, et Paul Jeanne en a recensé une quarantaine d'ouvrages, cette littérature a complètement disparu.
Et pourquoi elle a disparu ? Elle a été détruite ou
hasard de la transmission des textes, un certain nombre de textes ont été quand même aussi sabrés par la censure, moins d'Auguste d'ailleurs que Tibère ensuite.
Ouais. Stéphane Ratti.
Parmi les historiens qui ont disparu, vous avez parfaitement raison de les évoquer, il y a des noms qui sont connus, Asinius, Pollion, Troque, Pompée, mais il y en a un qu'on connaît peu, mais qui a été une source de la vie de Plutarque, c'est un dénommé Quintus Delius, ami d'Antoine, qui avait écrit un récit des guerres partiques d'Antoine, et donc qui était plutôt favorable à Antoine, et donc à Cléopâtre. Mais par malheur, il s'est brouillé avec Cléopâtre, il lui a envoyé des lettres d'amour un peu licencieuses et elle s'est brouillée avec lui.
Martin Collin, je rappelle que Martin Collin qu'en 2001, en septembre 2001, il y a exactement 10 ans, vous publiez dans une très bonne collection qui s'est arrêtée malheureusement depuis chez Larousse, qui était une collection qui s'appelait donc La Ville et la Légende et qui tentait justement en deux parties de raconter en première partie ce qu'était la vie du personnage illustre dont on parlait et puis dans une deuxième partie après des petites pages roses qui rassemblaient donc quelques jugements sur ce personnage-là et donc l'histoire posthume, pourrait-on dire, de ce personnage. Vous avez écrit un Cléopâtre en 2001, Martin Alors, Collin.
C'est vrai que dans un premier temps, nous sommes tributaires de poètes jusqu'à Lucain et qu'on a quelques écrits de Cicéron dans sa correspondance. César, évidemment, dans ses écrits, mentionne très peu Cléopâtre pour des raisons évidentes, puisque sa correspondance ou ses écrits servaient, on va dire, d'outils politiques. Donc ensuite, on dépend de poètes. Mes confrères latinistes émérites sont mieux à même de définir ce que peut être un historien de l'Antiquité. Ouais. C'est clair que ça n'a pas la même signification et le même sens que pour nous aujourd'hui. C'est pour ça, évidemment, que les historiens de cette période vont aussi s'appuyer sur d'autres sources, notamment la numismatique, qui en général va va minorer ce qu'on peut trouver dans les textes, notamment évidemment sur la place qu'occupe Antoine aux côtés de Cléopâtre.
Paul Marius Martin, sur ce que sont ces historiens, ce sont des chroniqueurs de cour, ce sont des gens qui servent à un parti plutôt qu'un autre.
Non,
ce sont quoi ?
Il y a tout là-dedans. Il y a des gens comme Asinius Pollion, par exemple, étaient des gens qui avaient une certaine distance vis-à-vis des événements qu'ils avaient vécus. La plupart d'entre eux avaient épousé évidemment le parti qu'ils avaient suivi dans les guerres civiles auparavant, mais nous avons beaucoup de mal à savoir exactement ce qu'ils disaient parce que nous avons perdu leurs œuvres. Il y a aussi quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que nous avons perdu aussi les mémoires d'Auguste et les mémoires d'Agrippa, qui nous auraient été bien précieuses. Cela dit, pour Auguste, on sait à peu près quelle était sa position, puisque c'est la position officielle, évidemment.
Stéphane Ratti.
Nous avons d'Auguste un témoignage très précis sur sa propre vie, ce que l'on appelle, vous avez parfaitement raison, les res gestae, le testament du divin Auguste, dont nous avons une copie à Ancyre. Non, c'est un texte d'une grande importance, très, très long, très détaillé, et dans lequel, précisément, il est le premier fabricant, pardon pour cette référence au titre de l'émission, mais de sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il ne cite jamais Antoine dans les Res Gestae, mais il fait tout pour noircir son souvenir. Et ce texte est si important qu'il a eu une influence à travers les siècles jusqu'aux historiens tardifs. Eutrope, que l'on évoquait tout à l'heure, avait probablement été influencé par ce texte. On minimise à tort la force, la continuité, la puissance de l'idéologie augustéenne et de la fabrication de l'histoire par ces auteurs de l'époque d'Octave Auguste.
Alors, retour au texte, justement, Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, évoque une légende qui est parvenue jusqu'à nous, celle, évidemment, des deux perles de ces derniers rois qui étaient ces rois d'Orient, donc Antoine et Cléopâtre. Nathalie Canoui.
Au temps où Antoine se gavait journellement de mets choisis, Cléopâtre avait le dédain à la fois hautain et provoquant d'une courtisane couronnée, dénigrait toute la somptuosité de ses apprêts. Il lui demanda ce qui pouvait être ajouté à la magnificence de sa table. Elle répondit qu'en un seul dîner, elle engloutirait 10 millions de sesterces. Antoine était désireux d'apprendre comment, sans croire la chose possible. Ils firent donc un pari. Le lendemain, jour de la décision, elle fit servir à Antoine un dîner d'ailleurs somptueux. Il ne fallait pas que ce jour fût perdu, mais ordinaire. Antoine se moquait et demandait le compte des dépenses. Ce n'était, assura-t-elle, qu'un à côté. Le dîner coûterait le prix fixé et seule, elle mangerait les 10 millions de sesterces. Elle ordonna d'apporter le second service. Suivant ses instructions, les serviteurs ne placèrent devant elle qu'un vase rempli d'un vinaigre dont la violente acidité dissout les perles. Elle portait à ses oreilles les bijoux extraordinaires, ce chef-d'œuvre de la nature vraiment unique. Alors qu'Antoine se demandait ce qu'elle allait faire, elle détacha l'une des perles, la plongea dans le liquide et lorsqu'elle fut dissoute, l'avala. Elle se disposait à engloutir l'autre de la même façon. Elle, Plancus, arbitre de ce pari, mit le holà et prononça qu'Antoine était le vaincu, présage qui s'est accompli. La célébrité ne fait pas défaut à la perle jumelle. Après la capture de cette reine, sortie victorieuse d'un débat si considérable, elle fut sciée pour que la moitié de leur dîner devint deux pendants d'oreilles pour la Vénus du Panthéon à Rome.
Voilà donc un extrait célèbre de Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Par Marius Martin, on voit déjà poindre quelque chose. On se dit tout de même, ces Romains, ils n'ont pas simplement entendu parler, pour certains d'entre eux, de cette Cléopâtre. Pour certains d'entre eux, ils l'ont vue, puisqu'elle a vécu pendant un an et demi à peu près à Rome. Donc ils ont pu la côtoyer et pas simplement la voir de loin ou l'imaginer telle une déesse ou princesse orientale, Paul Marius Martin.
Oui, bien sûr. Lorsque César rentre à Rome après la campagne d'Alexandrie, il ramène dans ses bagages, si je puis dire, Cléopâtre, et elle va passer plusieurs mois à Rome.
Jusqu'à la mort de César, d'ailleurs.
Non, elle va retourner en Égypte. Très probablement, elle va faire 2 séjours à Rome. On a quand même des indices assez certains qu'elle est repartie dans son royaume pendant un certain temps.
Et est revenue.
Et effectivement, au moment de l'assassinat de César, le 15 mars 44, elle était à Rome, puisqu'elle va quitter la ville quelques semaines après, d'après le témoignage de Cicéron. Et donc, elle va vivre à Rome pendant plusieurs mois en deux fois. Une fois dans les jardins, dans la villa qu'avait César sur le Trastevere. Et une autre fois, probablement, on pense qu'elle a résidé la seconde fois, c'est l'hypothèse d'une Américaine toute récente, dans les anciens jardins qui appartenaient à Claudia. La fameuse Claudia de Catulle. Il est certain qu'elle a reçu à ce moment-là l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Jet Society romaine. Mais ce qui est extrêmement curieux, c'est que nous avons pratiquement aucun témoignage de ce séjour, presque rien. Cicéron n'en parle pas. Les autres sources sont très discrètes.
Une allusion.
Il y a une allusion sur Cicéron, ouais. Effectivement, et encore postérieure à son départ.
Je suis presque certain que Cicéron a peut-être vu la reine. Car, presque en particulier, parce qu'il y fait beaucoup plus qu'une allusion. Bien sûr, il y a ce texte célèbre dans une lettre de la période qui suit la mort de César, en juin 44, dans laquelle il dit « Je hais la reine, odi reginam ». Mais il le dit non pas tant par ce qu'elle représente, mais parce qu'il est très vexé des affaires qu'il y avait entre eux. L'éditeur de cette lettre dans la CUF, Jean Bourgeux, est très peu clair dans ses explications. J'en ai une à vous proposer.
Il semblerait que
peut-être il était en relation, à mon avis, intellectuelle.
Pour un manuscrit.
Oui, il y a une relation absolument.
Il y a l'idée que peut-être la bibliothèque d'Alexandrie, qui était si riche et dont on a déjà parlé hier avec notre invité Bernard Legras, cette bibliothèque d'Alexandrie possédait des richesses qu'aurait peut-être voulu pour certaines d'entre elles Cicéron, au moins les consulter.
Absolument, c'est une hypothèse qui est recevable.
Donc Cléopâtre aurait pu peut-être transmettre un manuscrit, promis de transmettre un manuscrit qu'elle n'aurait pas.
Communication, probablement, effectivement.
Le mot qui est utilisé dans la lettre de Cicéron, dans laquelle il fait part de ses relations avec la reine, est un mot grec, comme toujours lorsqu'il s'agit de choses importantes, c'est philologia. C'était des affaires philologiques qu'ils avaient entre eux. Alors, donc il a vu la reine et il s'est fâché avec elle pour un incident tout bête. L'un des intendants de Cléopâtre, qui s'appelle Sarah, vient le trouver, il entre chez Cicéron, et au moment où il voit Cicéron, il lui demande « Où est Atticus ?» Où est Atticus ? Et Cicéron est très vexé que ce ne soit pas lui-même que l'on demande pour ses renseignements philologiques, mais son secrétaire particulier qui était aussi un grand historien. Donc il est très vexé, il est dit « je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là ».
Il n'empêche que ça paraît très peu, finalement. On en parle toujours très peu de cette fameuse Cléopâtre. On parle toujours des hommes d'État romains, mais on ne parle jamais d'elle en tant que telle. Et encore moins en tant que reine d'Égypte. Enfin, on parle toujours d'elle.
On s'attendrait quand même dans les Philippiques à ce qu'il en parle, étant donné que Antoine aussi l'avait fréquenté forcément, mais il n'y a rien du tout là-dessus non plus.
Alors Martin Collin, on s'aperçoit tout de même que cette pauvre entre guillemets Cléopâtre est victime tout de même de cette période très particulière de l'histoire de Rome, de ce conflit donc de guerre civile donc entre les Romains, de ces conflits entre les uns et les autres, que ça soit Pompée ou César, et qu'au bout du compte elle fait un peu les frais, ou Octave justement et Marc-Antoine, elle fait les frais justement de ces tensions, qu'il faut d'une certaine façon avoir une sorte de tiers, et ce tiers ça sera Cléopâtre pour pouvoir un peu régler les conflits intestins entre les Romains, justement.
Disons que si effectivement on replace Cléopâtre dans son contexte de guerre civile, puis les proscriptions. Alors effectivement, on peut imaginer Cicéron qui va être victime des proscriptions en 43. Qu'aurait-il écrit s'il avait vécu un peu plus et avait vu une réelle relation s'établir entre Antoine et Cléopâtre? On peut imaginer que sa violence aurait été encore plus grande à l'égard d'Antoine. Donc, pourquoi peu de choses à cette époque dans les écrits? Alors, on en a perdu beaucoup, certes, mais par ailleurs, on peut considérer que c'est un souverain d'un royaume macédonien, le dernier royaume indépendant de l'ancien empire d'Alexandre. Tous les autres sont devenus provinces romaines. Donc, il y a quelque chose d'inéluctable dans la conquête de l'Égypte, même si, évidemment, en histoire, on préfère éviter ce genre de téléologie. Mais, donc, je pense que pour les auteurs romains, c'est un personnage mineur. C'est un personnage qui, chez Plutarque, va permettre de développer la vie d'Antoine, mais Plutarque peut-il être considéré réellement comme un historien lui-même? ne se considérait pas comme un historien, mais plutôt comme un biographe ou un moraliste, ce qui fait qu'il n'écrivait pas de la même façon que Suétone, qui avait un plan à peu près identique pour tous ses Césars. Plutarque, la vie d'Antoine étant ça, différente, on va dire, des autres, qu'elle ne s'arrête pas à la mort d'Antoine, elle se prolonge jusqu'à la mort de Cléopâtre. Et les premières traductions françaises, d'ailleurs, de la vie d'Antoine, s'appelleront la vie d'Antoine et de Samy Cléopâtre. Donc, évidemment, on est dans une autre dimension.
Alors, autre dimension, alors, si on s'intéresse à ces historiens de Rome, on sait qu'effectivement, Rome ayant conquis tout le bassin méditerranéen, il y a des historiens qui sont issus de diverses origines, de divers endroits de cet empire romain. Et par exemple, Flavius Joseph, que nous dit-il, ce Flavius Joseph, donc historien juif donc, de la Judée de cette époque, dans son Contrapion, qu'écrit donc Flavius Joseph de ce personnage de Cléopâtre, Nathalie Canoui?
Appion parle aussi de la dernière Cléopâtre, reine d'Alexandrie, pour nous reprocher l'hostilité qu'elle nous témoignait, au lieu de consacrer son zèle à l'accusation de cette femme, qui ne s'abstint d'aucune injustice et d'aucun crime, soit contre ses parents, soit contre ses maris ou ses amants, soit contre tous les Romains en général, et leurs chefs, ses bienfaiteurs, qui alla jusqu'à tuer dans le temple sa sœur Arsinoé, innocente à son égard, qui assassina traîtreusement son frère aussi, Ptolémée XIV en 44, pilla les dieux de ses pères et les tombeaux de ses ancêtres, qui, tenant son royaume du premier César, ne craignit pas de se révolter contre le fils et successeur de celui-ci, et corrompant Antoine par les plaisirs de l'amour, en fit un ennemi de la patrie, un traître envers ses ennemis, dépouillant de ceci leur sang royal, dépouillant ceux-ci de leur sang royal et poussant les autres jusqu'au crime. Mais à quoi bon en dire davantage? Ne l'abandonnait-elle pas, lui-même, au milieu du combat naval, lui, son mari, le père de leurs enfants? Et ne l'obligeait-elle pas à livrer son armée et son empire pour la suivre? En dernier lieu, après la prise d'Alexandrie par César, elle ne vit plus d'espoir pour elle que dans le suicide, tant elle s'était montrée cruelle et déloyale envers tous. Pensez-vous donc que nous ne devions pas nous glorifier de ce que, dans une disette, comme le dit Appion, elle ait refusé de distribuer du blé aux Juifs? Mais cette reine reçut le châtiment qu'elle méritait.
Voilà donc pour cet extrait de Flavius Joseph, donc dans une traduction des Belles Lettres. Flavius Joseph, donc historien du 1er siècle, qui donc raconte la guerre des Juifs et qui, dans ce texte-là, dresse une sorte de dossier. On pourrait dire que c'est un dossier d'accusation. Paul-Marius Martin, on a à peu près, sinon tout, beaucoup de ce qu'on peut reprocher. Est-ce que reprocheront beaucoup des successeurs de Flavius Joseph à cette personnalité de Cléopâtre, son ambition, la volonté de noyer Rome dans un Orient compliqué et dissolu, etc., etc., Paul-Marius Martin?
Alors, il y a deux aspects dans le témoignage de Flavius Joseph. Il y a d'abord l'aspect qui reflète la propagande augustéenne et qui est celui d'une Cléopâtre corruptrice, comme tout ce qui vient d'Orient. Hein. C'est quand même un vieux topos chez les Romains. Tout ce qui vient d'Orient, ça pourrit, ça dégrade, relisez sa lustre. Enfin, c'est,
ouais, mais c'est assez étrange parce que les voilà tous admirateurs d'accord. De la Grèce et donc de cette Grèce et enfin beaucoup sont admirateurs.
Ah, non, là, si vous permettez, c'est une chose que l'on répète volontiers et que j'entends souvent dire par des hellénistes, à savoir que Stéphane les Romains étaient admirateurs de la Grèce. Je voudrais simplement mettre là-dessus une toute petite réserve. Ils étaient admirateurs, mais très jaloux. Et donc il ne faut pas surestimer, surévaluer l'admiration des Romains pour la Grèce.
Et puis surtout, ils étaient admirateurs de la Grèce, je dirais, classique. Ouais. La Grèce hellénistique,
oui,
c'était pas les royaumes hellénistiques, c'était des royaumes, donc forcément des choses mauvaises. Et l'autre aspect dans Flavius Joseph, c'est le témoignage d'un juif qui est un familier d'Hérode et qui est extrêmement hostile aux Égyptiens en général et à Cléopâtre en particulier, puisque Hérode, après avoir longtemps soutenu Antoine, s'était rallié finalement à Octave, et du coup Flavius Joseph se fait effectivement l'écho de la position officielle de son roi.
C'est d'ailleurs le plus étonnant. On va peut-être cheminer avec ces historiens, par exemple grecs de Rome, un peu plus tard avec vous tous, mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on se dit, voilà, des gens qui sont issus de ce bassin oriental de la Méditerranée, qui voient tout de même arriver ces Romains comme des envahisseurs pour certains d'entre eux, et qui néanmoins vont adopter dans leurs textes, disons, cette idéologie romaine, cette vision romaine de Cléopâtre et de ce royaume lagide, Martin Collin.
Mais en fait, donc Flavius Joseph, qui écrit en grec, et on peut dire la même chose pour Plutarque, il ne voit pas les Romains comme des envahisseurs. Et à la limite, il faut même qu'ils expliquent de façon rationnelle en quoi Rome domine le monde. Pourquoi ? Ben alors justement, le monde grec appartient maintenant en quelque sorte au passé et que le futur, c'est Rome. Donc il y a une volonté de justifier en quelque sorte cette domination romaine. Alors ce qui est intéressant avec Flavius Joseph, c'est que comprendre le personnage Cléopâtre, on se rapproche plus de son rôle régional. On revient plus à Cléopâtre, reine d'Égypte, avec un voisin, un autre roi. Parce que certes, les Romains détestent la monarchie, mais ça ne les a jamais empêchés de s'allier avec des monarques. Dans leur système impérial, dans un premier temps, protéger une monarchie n'est pas un souci. Avoir une alliance avec une monarchie non plus. Au final, évidemment, ils peuvent la supprimer. Mais on n'est pas dans un impérialisme libérateur qui irait libérer des peuples qui seraient sous l'oppression d'un monarque.
C'est pas la Révolution française.
Non. Point. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Alors, à chaque fois, nous parlons de Cléopâtre, la reine Cléopâtre, Cléopâtre à Rome, etc. N'oublions pas qu'elle est systématiquement mariée avec un roi, hein, qu'elle ne gouverne pas seule, en théorie, qu'à Rome, elle est en compagnie d'un de ses époux et frères, qu'elle en changera successivement, ce qui, évidemment, dans la propagande augustéenne et par la suite, apparaîtra comme une abomination, même si ça peut s'expliquer, vous en avez parlé hier, par des raisons d'organisation de la monarchie lagide.
Alors, Paul-Marius Martin, vous vouliez ajouter un mot ?
Oui, je voulais juste dire que c'est vrai qu'elle était flanquée d'un autre roi, mais, en fait, ce sont à chaque fois des gamins. Hein, c'est elle, véritablement, qui règne et qui gouverne. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Alors, avançons un peu dans ces écrits de ces écrivains et historiens donc, de Rome un peu plus tard. Eh bien, Lucain, dans sa Pharsale, là, nous sommes au IIe siècle, raconte et revient sur non pas les amours de Cléopâtre avec Marc-Antoine, mais sur les amours de Cléopâtre avec César. Nathalie Canouille.
Elle passe toute une honteuse nuit avec son juge, qu'elle a séduit. La paix, une fois assurée par le chef et payée au prix d'immenses présents, un festin célèbre la joie d'un si grand événement et Cléopâtre étale un luxe tapageur que la société romaine n'avait pas encore adopté. Le lieu en était comme un temple, tel qu'en élèverait à peine une époque plus corrompue. Les voûtes lambrissées étaient chargées de richesses, d'épaisses lames d'or cachaient les pièces de bois. Les marbres, mais non pas découpés en plaquages superficiels, faisaient briller la demeure. Il s'y dressait des masses entières d'agate et de porphyre. C'était dans tout le palais une profusion d'onyx sur lequel on marchait. L'ébène maréotique ne recouvre pas les vastes jambages des portes, mais s'y dresse au lieu du chêne vulgaire, servant de support et non pas d'ornement à la demeure. Puis, c'est une multitude d'esclaves, un peuple de serviteurs, des noirs, des blonds, des eunuques et des adolescents, des mignons.
Voilà donc comment Lucain, dans la Pharsale, décrit Cléopâtre, donc, dont César s'est entiché. Là, il y a aussi tout ce qui concerne la richesse, c'est la richesse de cet Orient, qui est aussi attendue, voulue par Rome et par l'Empire romain.
Stéphane Ratti. Ce que Lucain cherche à faire, et c'est à écrire une épopée historique, ce qui est une nouveauté littéraire absolue. Je veux dire qu'il faut peut-être commencer par là pour comprendre Lucain et les sous-entendus. Lucain a une grave difficulté dans son épopée Nouvelle Manière par rapport à Virgile. C'est qu'il n'a pas de héros. Il n'a pas de héros. César n'est pas un héros d'épopée. César est presque un criminel. Il franchit le Rubicon de manière illégale. Il s'entiche de cette reine, ce qui n'est pas non plus une chose très recommandable. Autrement dit, Lucain ne peut pas glorifier César, qui n'est pas son héros, et il va trouver dans la personnalité de Cléopâtre et dans la monstruosité de Cléopâtre, fatale monstrum, dite Horace d'elle-même, c'est-à-dire que c'est quelque chose, une personnalité qui va contre la nature. Il va trouver dans la personnalité religieuse dévoyée de Cléopâtre un motif d'accabler César au lieu d'en faire son héros. Et tout ce qui accompagne cette noirceur, cette façon de noircir César est le bienvenu, d'où les richesses orientales, la dépravation, la sexualité débridée, etc.
Séverine.
D'ailleurs, sur cette question, je crois que c'est vous, Martin Collat, qui soulignait aussi qu'il faudrait peut-être recontextualiser le moment où justement ces historiens ou ces poètes écrivent sur Cléopâtre et Rome, puisque par exemple, Lucain, d'une certaine manière, dénonce aussi le pouvoir politique, par exemple, que prennent certaines femmes à ce moment-là, au moment où il écrit justement entre 39 et 65 après Jésus-Christ. Et notamment, il dénonce peut-être, puisque c'est sous le règne de Néron, il dénonce peut-être la relation que Néron entretient aussi avec Popée, je crois.
Bah, en fait,
Cléopâtre serait l'image de cette Popée.
On essaye d'avoir sur ces textes des lectures multiples. Alors effectivement, si on la prend au premier degré comme étant une description fantasmée et imagée d'une éventuelle idylle entre César et Cléopâtre, voilà, on a les premiers éléments de l'érotisation de la légende. Lucain va être le premier à dire que globalement Cléopâtre s'est habillé de façon très légère pour capter le regard du général romain. Ensuite, bon, on essaie de voir s'il ne répond pas à son époque. Il écrit sous le règne de Néron, avec lequel on peut dire quelque part qu'il se sent peut-être en concurrence dans l'écriture. Et ne vise-t-il pas, en visant Cléopâtre, une femme de son époque qui aurait, selon lui, les mêmes vices ?
Un peu comme Patrick Rambaud quand il écrit le règne de Nicolas Ier aujourd'hui.
Oui, voilà. Alors, la femme étrangère, la souveraine étrangère, donc de Cléopâtre à Marie-Antoinette jusqu'à, je ne sais.
Oui,
cette question quand même de cette femme qui a l'outrecuidance de se prendre Popée, pour un homme aussi.
Alors, ce qui fait qu'ensuite, d'ailleurs, dans la légende, par exemple, on a des écrits sur Popée expliquant qu'elle est dans la démesure, qu'elle fait, c'est elle, la première sur lesquelles on a des textes expliquant qu'elle fait traire des ânesses pour récolter son lait, pour prendre des bains de lait d'ânesse. Histoire qu'on va retrouver ensuite
chez Cléopâtre.
Pour Cléopâtre. Ce qui n'est jamais réellement indiqué. Donc tout va se retrouver sur Cléopâtre.
Paul-Marius Martin.
Ce que je veux dire, c'est que dans l'imaginaire fantasmatique des Romains, il y a toujours une alliance étroite entre le luxe et la luxure. L'un ne va pas sans l'autre, et dès qu'il s'agit de femmes notamment, on voit apparaître un vieux fantasme historique qui va traverser d'ailleurs les siècles, qui est le fantasme de la reine Putain. Et ça continue avec Margot, Buridan dans 50 scènes, etc. C'est-à-dire que Lucain va se faire le premier... chantre d'un monstre, comme le dit justement, le rappelle justement Ratti, d'un monstre féminin capable, une sorte de vouivre capable d'engloutir non seulement tous les hommes qui passent à sa portée,
mais peut-être même l'Empire romain.
Capable de l'avaler, littéralement.
Savez-vous, vous avez parfaitement raison, Paul-Marius Martin a parfaitement raison. Il se trouve qu'il y a un témoignage de Suétone tout à fait étonnant qui rapporte une rumeur, et vous savez que les rumeurs, si elles sont colportées, c'est que quelque part on est prêt à les accueillir. Or, Suétone nous fait part d'une rumeur absolument extraordinaire à propos de César sous influence de Cléopâtre. Il aurait eu l'intention, après avoir pillé toutes les richesses de l'Italie et levé des troupes en Italie, il aurait eu l'intention d'installer le pouvoir politique romain à Troie et à Alexandrie. Alors, à Troie, on le comprend pour certaines raisons liées aux guerres partiques, mais surtout à Alexandrie sous influence de Cléopâtre. C'est absolument inimaginable. Enfin, ça n'a aucun fond de réalité historique, cette affaire-là. Mais la rumeur a eu du succès et elle révèle combien les esprits étaient inquiets, avaient peur de cette reine, avaient peur aussi de César.
Alors, peur de cette reine, par contre, il y a une réalité, c'est que c'est quand même une reine cultivée, une jeune fille qui a reçu une éducation qui n'est pas celle d'une jeune romaine. Elle est polyglotte, elle connaît les récits, on dit qu'elle a eu une éducation, en tous les cas, qui n'est pas celle, justement, de la jeune fille à Rome, qui n'est pas celle... Et ce qui sous-entend qu'elle peut aussi avoir un statut, une fonction différente des femmes de celle des femmes à Rome.
Paul-Marius Martin.
Oui, alors bon, c'était une femme qui avait une intelligence remarquable. On dit qu'elle était polyglotte, ça, on prétend, c'est Dion Cassius qui disait ça. Elle maîtrisait parfaitement, évidemment, le grec qui était sa langue maternelle, mais probablement également le latin.
Elle devait avoir au moins des rudiments d'autres langues.
Elle parlait le démotique, certainement. Elle avait écrit quand même plusieurs traités, des traités de métrologie, un traité d'alchimie, un traité de cosmétique. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, elle avait une intelligence vive, et il est certain que dans la séduction de Cléopâtre, beaucoup plus que sa beauté physique, qui n'apparaît pas tellement dans les statues qu'on peut avoir, dans les restes qu'on peut avoir d'elle, du moins les plus certains, il jouait probablement un charme de la conversation et un charme de l'esprit qui était énorme. Et cette Cléopâtre-là est véritablement la Cléopâtre qu'on a voulu mettre sous le boisseau.
Oui, hein. Parce que c'était un danger ou parce que c'était...
Parce que c'était un danger, bien sûr.
Et c'était un danger aussi...
C'était une femme de tête, c'était une femme qui a essayé, avec les moyens qu'elle avait, de conserver le dernier reste de l'Empire d'Alexandre, qui était encore indépendant de Rome.
Stéphane Ratti.
Je crois qu'elle représente 4 dangers, finalement. C'est une étrangère, et à ce titre, elle met en cause et en danger la romanité. C'est une femme, elle met en danger la virilité romaine. Ouais. C'est une reine, elle met en danger la République romaine. Et enfin, c'est une ambitieuse, et elle met en cause et en danger, à ce titre, la liberté romaine.
Alors, passons du côté de celui qui est peut-être le moins dur avec cette personnalité de tous les historiens de Rome, avec cette personnalité de Cléopâtre, à savoir Plutarque. Nathalie Canoui.
Après s'être ainsi lamentée, elle couronna de fleurs et embrassa la tombe. Puis elle se fit préparer un bain. Une fois baignée, elle se mit à table et prit un repas somptueux. Un homme arriva alors de la campagne, portant un panier. Comme les gardes lui demandaient ce qu'il contenait, il ouvrit, écarta les feuilles et leur montra qu'il était plein de figues. Les gardes, admirant la beauté et la grosseur des fruits, l'homme sourit et les invita à en prendre. Ainsi mis en confiance, ils le laissèrent entrer avec ce qu'il portait. Après son déjeuner, Cléopâtre prit une tablette qu'elle avait écrite et cachetée et l'envoya à Octave. Puis, ayant fait sortir tout le monde, à l'exception de ces 2 femmes dont j'ai parlé, elle ferma la porte. Quand Octave eut décacheté la tablette et lu les prières et les supplications par lesquelles elle lui demandait de l'ensevelir avec Antoine, il comprit aussitôt ce qu'elle avait fait. Il songea à aller lui-même à son secours, puis il envoya en toute hâte des gens pour voir ce qui s'était passé. Le drame avait été rapide, car venus en courant, ils surprirent les gardes qui ne s'étaient aperçus de rien. Et ouvrant la porte, ils trouvèrent Cléopâtre, morte, couchée sur un lit d'or et vêtue de ses habits royaux. L'une de ses servantes, appelée Iras, expirait à ses pieds. L'autre, Charmion, déjà chancelante et appesantie, arrangeait le diadème autour de la tête de la reine. Un des hommes lui dit avec colère « Voilà qui est beau, Charmion. »« Très beau, » fit-elle, « et digne de la descendante de tant de rois. » Elle n'en dit pas davantage et tomba sur place, près du lit.
Beau texte tout de même de Plutarque pour raconter cette mort de Cléopâtre, elle aussi devenue légendaire. Je crois d'ailleurs que notre invité d'hier, Bernard Legras, est en train d'écrire justement une mort de Cléopâtre pour tenter non pas de découvrir, de tirer le vrai du faux, parce que c'est une des questions que l'on s'oppose. Est-ce qu'elle s'est empoisonnée ou est-ce qu'elle a été empoisonnée ou est-ce qu'elle a été mordue par un serpent venimeux justement contenu dans ce panier. Enfin, toujours est-il que c'est un moment de grandeur, pourrait-on dire. Est-ce que c'est un moment de grandeur, cette mort de Cléopâtre, Paul-Marius Martin, ou est-ce que c'est un moment de déchéance? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui a tout essayé et qui n'a pas réussi à atteindre ses buts et qui donc doit sortir de la vie, ou est-ce qu'au contraire, c'est un geste magnifique qui lui donne encore plus de gloire?
Les deux, mon général. En fait, vous avez la sortie la plus digne qu'elle ait pu trouver dans la situation où elle était. La grande idée d'Octavien, c'était de la faire défiler à son triomphe. Elle voulait absolument l'éviter. Elle a essayé d'ailleurs de se laisser mourir.
D'ailleurs, je crois, Arsinoe avait été emmené à Rome par César et donc montré en même temps que Vercingétorix s'autorise
de défiler dans le triomphe du vainqueur chargé de chaîne, etc.
C'est d'ailleurs la seule parole que l'on ait au style direct des Cléopâtres. C'est dans un fragment de Tite-Live, rapporté par Horace. Nous avons un tout petit mot grec où elle dit, par lequel elle exprime son refus de subir un triomphe à nouveau de la part d'un autre. Je ne serai pas représenté dans un nouveau triomphe.
Au triomphe de Turin, alors... À partir de là, elle a essayé de quitter la vie d'abord par une grève de la faim, et puis menacée par Octavien, celui-ci a menacé de s'en prendre ses enfants, donc elle a recommencé à s'alimenter. Et lorsque elle a trouvé le biais, on ne sait pas très bien lequel d'ailleurs, pour se tuer, eh bien, elle n'a pas hésité une seconde et elle s'est tuée avec tout l'apparat d'une véritable reine d'Égypte, d'un pharaon, c'est-à-dire qu'elle est morte dans les habits royaux. Il y a vraiment une mise en scène de sa propre mort qui montre que elle tenait absolument jusqu'au bout à maintenir sa dignité de reine jusque dans la mort.
Et de descendante de Ptolémée, justement, Martin Collard.
Mais donc, bon, à la fois, ça n'a rien d'exceptionnel, Mithridate, autre vaincu de Rome, va, alors lui, malheureusement, étant immunisé contre le poison, il va être aidé pour son suicide. Donc là encore, évidemment, le geste de Cléopâtre aujourd'hui paraît exceptionnel. Il n'en est rien. Par contre, évidemment, c'est aussi une façon, dans la littérature romaine, enfin antique en général, de dévaluer encore une fois Antoine, puisqu'elle va accomplir le même geste qu'Antoine alors qu'elle est une femme. Et donc effectivement, là, ça va permettre encore une fois de rabaisser Antoine. Alors c'est pour ça que je voulais revenir sur l'idée de Cléopâtre danger. Je pense que c'est un danger virtuel, c'est un danger fantasmé. Oui, Jamais les armées égyptiennes n'ont menacé à quelconque moment les armées romaines. César avait remporté la guerre d'Alexandrie avec une ou deux légions face à toute l'armée égyptienne. Par contre, si Antoine arrivait à monter, ce qu'il a tenté de faire, une alliance solide et durable avec la reine Lagide, là, effectivement, il y avait danger. Mais comme il perd ses alliances en Italie, bon, il y a un basculement. Mais je ne pense pas qu'il y ait de danger réel de Cléopâtre.
Antoine avait quand même bien l'intention de débarquer en Italie, avant Axiom.
Ouais. Stéphane Ratto. Sur la fin de Cléopâtre et la biographie d'Antoine par Plutarque, qui est tout de même un chef-d'œuvre littéraire. Enfin, c'est un des plus beaux textes que nous connaissions dans l'Antiquité.
À part Shakespeare, quand même.
Oui, Shakespeare dans l'Antiquité. Qui avait lu Plutarque dans une traduction anglaise, qui avait connu connaissance de cette biographie dans une traduction anglaise de la fin du XVIe. Eh bien, entre la mort d'Antoine, qui a lieu le 1er août, et la mort de Cléopâtre, qui a lieu le 12 août, pendant cette dizaine de jours, eh bien, Cléopâtre est tenu en vie par Octave, et c'est suspect. Plutarque dit qu'il est très curieux qu'il soit aussi indulgent. Bien sûr, il veut la traîner à son triomphe à Rome, mais il y a aussi tout un jeu de séduction qui est probablement romancé, imaginé par Plutarque, mais qui est très intéressant à lire. C'est comment Cléopâtre fait semblant de céder aux promesses d'Octave de la laisser en vie, fait semblant de tenir à la vie. Dans le même temps, elle réussit à gagner du temps pour préparer son suicide, pour préparer sa disparition. Alors qu'Antoine croit la jouer, c'est lui qui est dupé et c'est magnifiquement mis en scène par Plutarque dans ces très belles pages de la fin de la vie d'Antoine par l'historien grec.
Alors, un autre historien grec, là en l'occurrence de Rome et de l'Empire romain, c'est Dion Cassius, plus tardif. Un extrait donc du discours qu'Octave lance à ses troupes avant la bataille d'Axium. Donc, mais c'est un discours évidemment imaginaire, comme souvent les discours dans les historiens de Rome ou les historiens romains. C'est donc une sorte de manifeste de ce que doit être Rome, justement face à cet Orient compliqué. Nathalie Canoui.
Nous sommes des Romains. Nous sommes maîtres de la plus grande, de la plus belle part de l'univers. Il serait indigne de nos pères que nous puissions être vaincus et méprisés par une femme, une Égyptienne. Ils ont vaincu Pyrrhus, Philippe, Persée, Antiochos. Ils ont renversé Numance et Carthage. Ils ont taillé en pièces les Cimbres et les Ambrons. Ce serait indigne de nous, qui avons soumis les Gaulois, domptés les Pannoniens, qui sommes allés jusqu'au Danube, avons traversé le Rhin, avons passé en Bretagne. Quelle effroyable souffrance! Tous ceux dont je viens de rappeler les exploits ne souffriraient-ils pas s'ils apprenaient que nous sommes tombés sous la coupe de cette femme exécrable?
Quelle effroyable honte! Ne souffririons-nous pas si, après avoir surpassé tous les autres en courage, nous supportions sans réagir les injures de ces gens qui, par ma foi, ne sont que des Alexandrins, des Égyptiens en fait. Qui ne sangloterait en apprenant que des chevaliers et des sénateurs la flattent comme des eunuques? Qui ne se lamenterait en apprenant et en voyant qu'Antoine, qui fut deux fois consul, plusieurs fois triomphateur, qui a exercé avec moi la tutelle de l'Empire, qui a conquis tant de villes et vaincu tant d'armées, a maintenant abandonné toutes les façons de vivre de nos pères, a épousé toutes les coutumes d'étrangers barbares, n'honore plus les lois, les dieux familiers, mais se prosterne aux pieds de cette femelle comme si elle était Isis ou la lune, a pris enfin lui-même le nom d'Osiris et de Dionysos.
Voilà ce qu'écrit donc Dion Cassius. Donc là, nous sommes au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ avec Dion Cassius. On avance dans le temps, on se rapproche de nous. C'est un très beau texte aussi, mais alors quel mépris pour cet Orient compliqué, quel mépris tout de même que de considérer que tous ces gens sont donc des Alexandrins et des Égyptiens qui ne méritent pas d'être comparés aux Romains. Qui veut réagir, Stéphane Ratti?
Dion Cassius est un héritier, peut-être en partie malgré lui, de la tradition augustéenne. C'est un protégé de l'empereur Alexandre Sévère au début du IIIe siècle, qui passe pour beaucoup d'historiens plus tardifs comme pour l'empereur modèle, une espèce de résurrection d'Auguste lui-même. Donc il est teinté, son histoire est teintée de cette idéologie augustéenne. Mais c'est aussi un fabricant de calomnie à l'égard de Cléopâtre. Par exemple, il dit exactement l'inverse à propos des derniers moments de Cléopâtre par rapport à Plutarque. D'après Dion Cassius, c'est Cléopâtre qui aurait sollicité un ultime entretien avec le vainqueur, alors que d'après Plutarque, c'est l'inverse, c'est Octave qui aurait sollicité l'entrevue. Vous voyez, ce genre de divergence historique, ce sont des choix assumés par les historiens, et dans les détails, Dion Cassius est effectivement très défavorable à la reine.
Paul-Marius Martin.
Oui, d'ailleurs, c'est tout à fait révélateur, cette inversion que vient de souligner Stéphane Ratti, c'est que, en fait, elle aurait tenté de séduire Octavien.
Oui, c'est ça, c'est évidemment ça.
Bon, franchement, une femme,
après avoir séduit César,
une femme qui vient de faire une grève de la faim, qui s'est labouré le visage et la poitrine à la mort d'Antoine, et qui commence à ne plus être très jeune du
monde. Cette femme n'avait rien perdu de son charme.
D'accord. C'est lui aussi qui dit que c'est la plus belle femme du monde. Ça commence, c'est Dion Cassius, ça, tout ça. Hein.
Et donc, vous pensez que ça n'est pas possible, justement, non, que c'est une inversion tardive. De toute façon, quelles sont les sources de ces historiens tardifs, Stéphane Ratti? Vous qui travaillez sur l'histoire Auguste, par exemple.
Écoutez, c'est très difficile pour Plutarque. Plutarque, c'est un auteur, un rat de bibliothèque. Enfin, il avait tout lu. Il y a dans les biographies de Plutarque près de 10 000 références. Pas d'auteur, mais de références. Donc, c'est absolument impossible de les identifier toutes. Ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'origine, il y a sans doute Tite-Live. Le grand auteur, au sens latin du terme, le responsable, n'est-ce pas, de l'image noire de Cléopâtre, c'est Tite-Live. Nous n'avons pas les livres 133, 134 qui, chez Tite-Live, racontaient l'histoire de Cléopâtre. Nous les avons perdus. Mais nous avons conservé, en revanche, des résumés grecs, qu'on appelle les periokae, qui donnent en quelques lignes des indications très, très sûres sur la manière dont Tite-Live noircissait déjà la reine.
Et les questions du témoignage oral, alors peut-être pas pour les historiens tardifs, mais ceux qui justement écrivent juste après, quoi.
Oui, il y avait des témoins, vous avez raison, il y avait des témoins.
On parle du médecin,
Quintus Gellius était un témoin. Nous n'avons pas un seul mot de Quintus Gellius, nous savons simplement qu'il s'était brouillé avec Cléopâtre. Donc il est très difficile de faire l'analyse de ces témoignages oraux de leur part, c'est extrêmement délicat.
Martin Collard.
Non, Plutarque fait allusion à son grand-père qui aurait rencontré un médecin qui fréquentait Alexandrie. Et donc, d'où l'anecdote sur le repas fastueux où 8 sangliers sont mis à cuire, voilà, alors qu'il n'y a que 12 convives, parce qu'on ne sait pas trop à quelle heure ils vont manger. Cléopâtre et Antoine choisiront l'heure du repas, mais il faut que ce soit après, pour n'importe quelle heure, donc on les met à cuire à différents horaires. Voilà, de temps en temps, hein, Plutarque fait ce type
pour la mort de, vous avez raison, pour la mort de Cléopâtre et les souffrances, les flagellations qu'elle s'impose, cause, la poitrine déchirée qu'elle offre à son vainqueur. Nous avons là probablement la source qui est nommée par Plutarque. Il s'agit d'Olympos, du médecin personnel de Cléopâtre, qui l'a aidé, qui l'a soigné et qui l'a aidé à mourir et à préparer son suicide. Le fait qu'un médecin de cette nature, qu'un médecin ait laissé un témoignage écrit est tout à fait vraisemblable.
Alors Stéphane Ratti, vous êtes spécialiste de cette antiquité tardive, 4e siècle, etc. Cette image noire de Cléopâtre continue, dure encore. Elle dit encore quelque chose à quelqu'un qui n'a quand même qui est à 4 siècles des événements. Oui, ou est-ce qu'elle ne dit rien à,
le 4e siècle cristallise l'héritage de l'idéologie et le fait fructifier, tout en le résumant, le fait fructifier. Eutrope, le Dewiris, anonyme, que Paul Marius date du début du 4e siècle, que personnellement je daterais vers 390, ces textes-là sont des héritiers directs de la propagande augustéenne et sont d'autant plus dangereux, efficaces, que ce sont des résumés.
Oui, et donc ils ont ce rôle d'éducation que vous avez mentionné au tout début de cette émission, Paul Marius Martin.
Si vous voulez, nous sommes là à un siècle, le 4e, qui voit la montée et l'installation du christianisme, et en gros, on voit fleurir à cette époque-là de plus en plus d'ouvrages qui, pour parler simplement, s'appelleraient aujourd'hui dans la pub tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur et de la manière la plus brève possible.
L'histoire de Rome pour les nuls, c'est ça.
On sauve les meubles avant que tout ça se casse la figure.
Ouais,
on essaye de rassembler
Ça va encore un petit peu plus loin, si vous le permettez.
Stéphane Ratti.
Non seulement on cherche à sauver un héritage, mais nous sommes dans un contexte quand même très particulier. Cette cristallisation de l'idéologie augustéenne se fait dans un contexte où le christianisme s'impose et où la victoire de la religion nouvelle, inscrite dans les textes, dans les lois par l'empereur Théodose, change la donne.
Et
change
considérablement les choses. Et où les derniers païens veulent peut-être aussi
les derniers païens
à faire brûler les feux de l'ancienne
Absolument.
Religion.
Absolument, ce sont les ultimes feux de la résistance païenne. Et à travers l'héritage de Cléopâtre, il y a quelque chose de cette nature. Mais si vous le permettez, il y a un texte que nous n'avons pas cité, que personne n'a évoqué, parce que nous avons beaucoup noirci cette malheureuse reine qui est tout de même quelqu'un admirable. Un texte latin qui dit beaucoup de bien de Cléopâtre, un seul à ma connaissance, qui est un texte précisément tardif de 390-392, qui est dans l'Histoire Auguste, la biographie de la reine de Palmyre, Zénobie. Or, Zénobie porte le surnom de Cléopâtre, et Zénobie est une héritière de Cléopâtre, une descendante des Ptolémées. Dit l'Histoire Auguste, c'est absolument faux historiquement. Oui. Mais ce qui est intéressant, Zénobie le disait elle-même.
Oui,
mais c'est absolument faux naturellement historiquement, mais tout le portrait de Zénobie est un portrait de Cléopâtre en creux, et il est positif. C'est une femme courageuse, fidèle, virile, chaste. Chaste et protectrice de l'Empire romain, notamment contre la menace parthe.
Dernier mot, très bref, Paul Marius Martin.
Une anecdote, justement, à propos de l'Histoire Auguste, c'est une bévue de l'auteur qui est tout à fait révélatrice. Probus, je lis le texte, lutta aussi contre les Palmyréens qui défendaient l'Égypte pour le compte d'Odénate et de Cléopâtre. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire Zénobie, il écrit Cléopâtre.
Ben oui, c'est un lapsus intéressant, effectivement.
C'est son cognomen.
Merci donc à vous trois, Paul Marius Martin, on peut lire de vous, Antoine et Cléopâtre chez Complexe, et vous préparez une édition de Diviris Illustribus aux belles lettres. Stéphane Ratti, vous avez participé avec Paul Marius Martin à un livre Écrire l'histoire à Rome, toujours aux belles lettres, et vous avez traduit et présenté donc des extraits de cette même histoire auguste dont on a parlé. Et Martin Collin, vous avez écrit une biographie de Cléopâtre en 2001 chez Larousse, mais également Le Monde Romain chez Armand Collin, et Enseigner l'histoire chez Cédès, qui va paraître très bientôt, ça paraît ce mois-ci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vona Bolivier et Aurélie Marseille. Aujourd'hui, donc, à la technique, Vincent René, à la réalisation, Anne Fleury et Nathalie Canoui, que nous remercions pour la lecture des textes. Demain, nous parlerons toujours de Cléopâtre et nous tenterons de dire qui était cette vraie Cléopâtre au-delà de la légende transmise par les historiens de Rome.